France Inter, le 18-20.
L'idée nous est venue d'abord après cette histoire de train des primeurs entre Rungis et Perpignan. Il a été question la semaine dernière, vous vous en souvenez sûrement, de le supprimer pour préférer la route. Plus polluante, ça va sans dire, mais apparemment plus économique. Depuis, l'idée a été stoppée au moins jusqu'à la fin de la saison parce que l'incohérence écologique, justement, a été pointée et que c'est pas le moment. Surtout, tiens, aujourd'hui, jour de conseil de défense écolo. Regardez, on commence à parler de moins prendre l'avion, par exemple, de taxer le kérosène. Dieu sait qu'on n'y est pas, mais en attendant, on agrandit Roissy pour 40 millions de voyageurs en plus. Tout cela, venu de l'État, c'est vrai, n'est pas très cohérent, mais puisqu'il faut accélérer, on l'a encore vu aujourd'hui, notre transition énergétique. Mais nous non plus, nous ne sommes pas forcément très cohérents. Tous les projets d'éoliennes offshore sont contestés. On a donc pris un retard considérable. 70% des projets d'éoliennes en France sont contestés parce que les riverains ne veulent pas voir abîmer le paysage, parce qu'ils ne savent pas très bien au fond comment ça fonctionne tout cela. Les centrales solaires au sol posent aussi problème parfois. Et c'est pour ça également que notre consommation en énergie renouvelable est l'une des plus basses en ce moment de la moyenne européenne. Est-ce que c'est un problème de concertation mal faite, mal amenée? Est-ce que nous devons repenser notre énergie totalement différemment? Est-ce que si on pensait plus auto-consommation, ce serait plus facile à mettre en place ou à faire admettre dans le paysage? Est-ce que tout cela est réaliste? Bref, nous la voulons tous, la transition écologique. Nous sommes tous collectivement aussi très incohérents parfois, l'État et nous aussi. Parlons-en donc ensemble et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Allez Pierre, c'est vous qui ouvrez le bal. Bonsoir à vous et soyez le bienvenu dans le téléphone sonne.
Bonsoir Fabienne, merci de prendre mon appel. Je voulais réagir à ce que vous aviez dit sur les initiatives personnelles pour installer ou pas de l'éolien ou du solaire sur son domicile. Et moi je trouve qu'on a assez peu d'informations sur l'état actuel des technologies. Qu'est-ce qu'on peut installer comme éolienne personnelle sur son toit? Où on en est du solaire actuellement? On voit des gens qui désinstallent ce qu'ils ont payé souvent cher il y a 8 ou 10 ans. Parce que la technologie est devenue obsolète ou ça marche plus. Et on est beaucoup sollicité par des emails, par des coups de fil de gens dont on a plus ou moins confiance, on sait pas trop vers qui se tourner. Et je trouve qu'on est assez peu informé sur l'état actuel de la technologie pour tout ça. Moi, je pourrais installer une éolienne, je pourrais installer du solaire, mais je ne sais pas vers qui me tourner. Bien que j'ai été aidé par l'ANA pour installer une pompe à chaleur, donc je suis maintenant dépendant de l'électricité pour me chauffer, et j'aimerais bien être plus indépendant.
Merci beaucoup Pierre pour votre question, merci pour cette entrée en matière qui nous permettra de balayer toute une partie des sujets qu'on a envie d'évoquer ensemble ce soir jusqu'à 20h pour répondre à vos questions, discuter ensemble. Alexandre Roche est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables, bonsoir à vous Pierre Canet.
Bonsoir.
Vous êtes co-directeur des programmes WWF France et puis Sandy Dauphin est là aussi, bonsoir Sandy, spécialiste
bonsoir.
Environnement à France Inter. Il a raison Pierre, et c'est intéressant sa question, je vais commencer avec vous Alexandre Roche. Plein de bonne volonté. Moi, je veux bien tout essayer, nous dit-il, en gros, mais je ne sais pas ni à qui m'adresser, ni comment ça marche réellement, en fait.
Peut-être que pour commencer, il pourrait s'adresser à ce qu'on appelle les espaces info-énergie. Ce sont des structures qui sont locales, en général proches des gens, et qui sont à la disposition de tout un chacun pour expliquer les différentes technologies et surtout les différentes aides qui existent pour installer un panneau solaire ou une autre technologie. Alors par rapport à ce qu'il évoquait, je pense qu'il y a une filière en particulier, c'est celle du solaire photovoltaïque, il l'a mentionné lui-même. Il y a aujourd'hui tout un cadre qui permet à tout un chacun de faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation, donc produire sa propre électricité pour pouvoir la consommer sur place. Et là encore, il y a un cadre avec une prime à l'investissement qui existe, et ces espaces info-énergie sont par exemple un bon exemple pour aller chercher l'information.
C'est combien la prime à l'investissement, par exemple? Ça représente quoi en fait? D'abord, pardon, moi je suis très naïve, combien ça coûte? Si je veux installer un panneau, deux panneaux sur mon toit pour me chauffer, combien ça va me coûter?
Ça va dépendre un petit peu de la taille de l'installation, et ça c'est justement quelque chose qu'il faut regarder pour bien la dimensionner par rapport aux besoins du bâtiment qui se trouve en dessous. Mais les primes à l'investissement, c'est, sans rentrer dans trop de technicité, c'est à peu près 400 euros par kilowatt crête. Donc ça sera 400 euros fois la puissance de l'installation en question. Et puis ensuite, il y a la partie donc de l'électricité qui est produite et qu'on va pouvoir utiliser pour effacer une partie de sa facture. Et si on produit plus d'électricité que ce dont on a besoin, on va pouvoir la réinjecter sur le réseau et là aussi il y aura une bonification.
Et pardon parce que je vois pas très bien à quoi ça correspond. Est-ce que ça revient cher en gros au début au moins, même si après on peut imaginer qu'on fait des économies sur la consommation, mais est-ce qu'au début c'est un investissement et ça revient vraiment cher quand on est comme Pierre et qu'on veut installer des panneaux sur son toit par exemple?
C'est de l'ordre de quelques milliers d'euros, l'investissement initial, encore une fois en fonction de la taille de l'installation. Mais voilà, c'est entre 3 000 et 6 000 euros à peu près d'investissement initial. Après, par rapport au temps de retour sur cet investissement, on est quand même sur des périodes relativement courtes.
Pierre Canet, dans ce que j'entends dans la question de Pierre, il a dit à un moment, moi je suis pas sûr, du coup j'ai pas confiance. Oui. C'est pas clair, on a l'impression qu'il y a une espèce de maquis en fait.
Je rejoins Pierre là-dessus, c'est-à-dire que on a toute une diversité d'organisations qui vont aider le consommateur, que ça soit pour la rénovation, l'installation d'énergies renouvelables. Et le consommateur s'y perd un peu, et c'est pourquoi les ONG, on pousse à ce qu'il y ait davantage d'informations institutionnelles. Et c'est le rôle de l'État aussi de permettre cette information. On a des territoires comme à Rouen, en Normandie, qui cherchent à mettre ces espaces en place de façon à conseiller au maximum. Mais c'est ce qu'on appelle le tiers de confiance. Il nous faut ici, dans la diversité d'entreprises qui sont investies dans les territoires, un tiers de confiance. Ce tiers de confiance en démocratie, c'est notamment le rôle du public et de l'État de le mettre en place et de le garantir. Ça demande du coup aussi, eh bien, vis-à-vis du budget de l'État, eh bien, d'investir, parce qu'il y a aussi des postes qui doivent être créés. On voit les territoires qui sont un peu, pour certains, serrés à la ceinture. Et donc de permettre ainsi la création de ces postes pour accompagner les habitants, les consommateurs au quotidien dans leurs choix, de façon indépendante, et c'est important de le préciser, cette notion d'indépendance.
Ce qui dit aussi, Pierre, c'est qu'il y a des systèmes qui ont été installés, alors peut-être il y a une petite dizaine d'années, qui sont obsolètes.
Oui, puis il y a des gens qui ont été échaudés, parce qu'il y a eu aussi, il faut le dire aussi, il y a eu des installations de panneaux photovoltaïques sur des toits qui n'ont jamais fonctionné. Donc voilà, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres commerciales. Est-ce qu'il existe un label aujourd'hui qui est fiable pour les consommateurs?
Je pense que
Alexandre Roche.
Oui, il y a le label RGE, donc c'est garant de l'environnement. Il faut se tourner vers un installateur qui est labellisé RGE aujourd'hui. C'est déjà la certitude que l'installation sera bien mise en place, parce que certaines installations peuvent ne pas fonctionner parce qu'elles sont mal connectées, mal mises en place. Après, sur les produits, il y a quand même une garantie du constructeur pendant 25 ans que le produit fonctionnera. De ce point de vue-là, normalement, il y a aussi des garanties côté équipementier.
Mais est-ce qu'on a fait des progrès aujourd'hui qui sont telles que, comme le disait Pierre, il y a beaucoup de choses qui sont devenues obsolètes aujourd'hui, qui sont peut-être plus gourmandes en énergie, qui sont peut-être plus chères, et qui aujourd'hui seraient beaucoup plus faciles à installer?
Les produits ont fait des progrès, c'est vrai, mais je ne pense pas que ces progrès soient tels pour justifier qu'au bout de 8 ans, on veuille les remplacer. C'est des installations, encore une fois, qui sont là pour durer entre 20 et 30 ans. On a vu les premières installations photovoltaïques qui datent à peu près de cette période, qui tournent toujours. Voilà, maintenant c'est vrai que c'est une filière qui progresse et donc l'efficacité des panneaux progresse également.
Anthony, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Anthony, allez-y.
Oui, alors du coup, en fait, moi, je voulais réagir sur l'opposition aux gros projets de centrales photovoltaïques. C'est que souvent, en fait, ces oppositions viennent du fait que ces projets sont énormes et prennent sur les terres agricoles. Et les terres agricoles, c'est un autre enjeu de la transition écologique, parce que c'est une ressource limitée qu'il faut préserver. Et, alors qu'il y a plein d'autres zones où on pourrait faire des projets, on pourrait faire sur les toits des hangars, des usines, sur les toits des immeubles. Et il vaut mieux peut-être plus de petits projets qui ont moins un gros impact que des énormes projets qui prennent beaucoup de terres agricoles et qui peuvent créer justement un préjudice de la transition écologique. Ça ne doit pas être l'objet pour faire n'importe quoi et essayer de faire des trucs toujours en énorme.
Merci beaucoup Anthony. Pierre Canet, c'est le sens de en ce moment par exemple ce qui se passe sur le Larzac, mais il y a d'autres endroits aussi comme ça où quand on installe des panneaux, d'abord il faut expliquer aux gens, c'est immense, ça tient sur un espace qui d'ailleurs ça correspond à combien d'hectares, est-ce qu'on sait ça en général, ce genre de grandes fermes photovoltaïques?
On a surtout l'artificialisation des sols, donc l'équivalent tous les 7 ans l'équivalent d'un département qui est mangé justement par ces projets, ces infrastructures. Donc ça passe aussi par l'urbanisation. Et ça pose la question aussi de la programmation pluriannuelle de l'énergie et la façon dont l'État met en place aussi des objectifs qui sont surtout dimensionnés pour des énormes projets. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est véritablement de renforcer cette dimension citoyenne de l'énergie. On a des petits projets qui sont plutôt exemplaires et en face de ces projets qui bouffent pas mal d'hectares, c'est l'idée d'aller sur des projets éoliens, par exemple, mieux dimensionnés ou solaires, où les habitants peuvent investir et suivre et devenir en quelque sorte sorte opérateur aussi du projet, et ça amène une appropriation. Donc, par rapport à cette question de l'auditeur, on a aussi une liaison à construire avec les agriculteurs. Il ne faut pas voir les énergies renouvelables comme une opposition aux agriculteurs. Et c'est là où on pense, là, on parle d'éolien, on parle également de panneaux solaires. Il faut penser aussi méthanisation. Et on a le besoin, ces terres agricoles, eh bien, c'est un gisement d'énergie. Et tout cela, c'est à construire. Cette énergie, aujourd'hui, à construire dans la transition, c'est aussi le lien avec les agriculteurs. Donc, plutôt qu'aller effectivement manger des terres agricoles à travers des énormes projets industriels de panneaux solaires, c'est renforcer les moyens apportés dans le biogaz et la méthanisation pour des revenus pour les agriculteurs.
Là encore, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça veut dire, un énorme projet comme celui que décrivait notre auditeur à l'instant, ça fournit, est-ce qu'on sait combien c'est censé fournir de personnes, et si on n'en est pas à l'autoconsommation, mais si on est dans des projets qui sont de plus petite taille, ça veut dire qu'on fournit combien de personnes? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça veut dire? Moi, j'ai du mal à me projeter dans quel nombre, en gros, quel espace pour fournir combien de personnes? Est-ce qu'on sait ça?
Par exemple, sur la ferme solaire du Larzac, c'est 400 hectares de panneaux photovoltaïques. C'est l'équivalent d'une consommation de 100 000 habitants, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui est intéressant, c'est justement donc le promoteur de ce projet, c'est un entrepreneur local, hein, dit « Mais l'accord de Paris, on n'y arrivera pas si on ne fait pas des gros projets comme ça. » Donc c'est vrai qu'il y a deux conceptions de développement des énergies renouvelables qui s'opposent.
Pardon, allez-y, Alexandre Roche, bien sûr.
Ouais, je voulais intervenir là-dessus parce que je pense que on aura besoin finalement de toutes les sources d'énergie renouvelable pour atteindre nos objectifs de Paris justement. Alors c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre tout à l'heure. On aura besoin de développer le photovoltaïque sur les bâtiments, sur les zones déjà artificialisées. Mais c'est vrai que les projets de plus grande taille sont plus compétitifs également. Et je voudrais pas que les auditeurs pensent qu'on peut développer des grandes fermes solaires n'importe comment. Il y a un cadre qui est en place à travers des appels d'offres qui encourage d'abord ces projets à aller sur des sites dégradés, ce qu'on appelle les sites dégradés, donc déjà artificialisés, et on ne peut pas aller sur des sites boisés ou sur du terrain agricole n'importe comment, c'est pas aujourd'hui possible dans le cadre des appels d'offres. Et par ailleurs, ces projets-là, ils sont soumis à des évaluations environnementales, des études d'impact, et ensuite une enquête publique. Donc il y a l'occasion, l'opportunité pour la population également d'échanger sur ce projet, sur son dimensionnement, et de voir voilà comment d'avoir cet échange avec les porteurs de projets.
Oui, mais il y a quand même une question sur l'acceptabilité de ces projets. On le voit vraiment typiquement sur le Larzac, où il y a des associations locales qui disent « on ne veut pas de votre usine solaire, en fait ».
Oui, ben je pense qu'encore une fois le cadre est en place pour que ce dialogue puisse avoir lieu. Aujourd'hui, le projet il a pas été construit. Hein. Il y a une annonce, et donc voilà, il y a tout le cadre qui va s'appliquer à ce projet, et on aura l'opportunité de pouvoir en discuter.
Pierre Canet, vous viendrez.
Intéressant avec l'énergie citoyenne, c'est que il faut amener cette appropriation citoyenne des riverains. On voit sur des projets d'énergie renouvelable, généralement dans les sondages, c'est à peu près 80% des Français qui ont un parc éolien, solaire à côté, qui sont satisfaits. Donc il y a quand même une majorité de soutien lorsque ce projet est sur place. Maintenant, sur ces grands projets, c'est de commencer au niveau territorial pour aller sur des projets où finalement les citoyens ont pu investir et s'approprier la question d'énergie renouvelable. Parce qu'on a peu oublié, en fait, ces dernières décennies, d'où venait cette énergie. Quand on sait que 98% du pétrole est importé en France, les grosses centrales et des grosses productions, donc des sites sur des surfaces énormes avec les centrales nucléaires, on a peu oublié d'où venait cette électricité. Et la question posée aussi ce soir, c'est celle des économies d'énergie. Donc quand on parle de cohérence, on pense bien sûr aux panneaux solaires, aux éoliennes, mais on pense aussi au besoin de réduire d'abord notre consommation d'énergie. Et il y a des incohérences là qui sont très fortes, par exemple le développement des panneaux publicitaires de hausse de 16% en 2017 qui nous amène à une consommation énergétique plus forte, alors que c'est aberrant d'avoir ces panneaux vidéo à travers le pays. Donc des petites incohérences comme ça que les citoyens voient au quotidien et comprennent mal un champ énorme d'éoliennes ou de panneaux solaires qui sont tout d'un coup propulsés à côté de chez eux, alors même qu'on les a jamais invités à participer à baisser la consommation d'énergie et puis aussi à participer à des projets de production d'électricité.
Quand je citais ce chiffre tout à l'heure, qu'il y avait 70% de recours en justice sur notamment les poses d'éoliennes, ça correspond à quoi? Est-ce que, parce qu'on peut imaginer aussi qu'il suffit d'une personne qui dépose une plainte ou je ne sais quoi pour que ce soit un projet soit arrêté dans l'ensemble d'une communauté. Donc, en gros, ça correspond à quoi? Est-ce que le chiffre est très impressionnant, mais est-ce que ce sont des cas, au fond, qui sont quasiment des cas marginaux, ou est-ce que oui, il y a un frein pour l'instant à notre mise en place d'énergie renouvelable à cause de ces procédures-là? Alexandre Roche.
Alors, oui, ces recours retardent les projets très clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, selon nous, ce n'est pas un bon indicateur de l'acceptabilité de ces projets.
Parce que vous le disiez aussi, Pierre Canet, il y a 80% des gens qui sont plutôt contents de ces gens-là.
Des riverains qui ont déjà un projet d'énergie renouvelable à proximité. Donc c'est un bel indicateur, ça, en France. Ça veut dire qu'on a quand même une énorme majorité de projets qui sont acceptés localement par les Français. Et aussi, en termes d'indicateurs, lorsque vous regardez le soutien des Français aux énergies renouvelables, on a une majorité culturelle très forte de l'ordre de 80-90% en fonction des sondages. Les Français sont donc prêts aux énergies renouvelables. La question n'est pas est-ce qu'on doit aller vers les énergies renouvelables, c'est comment y aller. Le chemin, comment développer des projets d'énergie renouvelable. Et c'est là où la dimension citoyenne est importante. L'acceptation, elle passe aussi par cette appropriation.
Je vous ai coupé, Alexandre Roche, pardon.
Non, mais voilà, je voulais dire qu'en effet, nous, on avait fait aussi des sondages avec BVA auprès de riverains de parcs éoliens, pour répondre très clairement à la question. Et on voit que l'acceptation, elle est en effet assez élevée. Elle est de l'ordre de 75% de riverains qui sont satisfaits. Même chose chez les élus. Donc en effet, les recours ne sont pas le bon indicateur de l'acceptation. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de financement participatif. Nous, ce qu'on observe aussi sur le terrain, c'est que les collectivités territoriales s'investissent de plus en plus directement dans des projets, montent au capital des projets, à la gouvernance des projets. Et voilà, c'est ce type aussi de pratique qui permettra d'asseoir un peu plus l'appropriation locale des projets.
Alors voilà, parfois ça fonctionne, l'appropriation locale, comme vous dites, et parfois c'est plus compliqué. Bonsoir, Denis.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Denis. Vous êtes en Charente, c'est ça?
Non, les Hauts-de-France, justement.
Bah, écoutez.
Une région où les éoliennes sont fortement implantées. Je prendrai l'exemple du lieu où j'habite. Au début, c'était un projet de 2, 3, 4 éoliennes. Et maintenant, dans un rayon de 10 km, nous avons un parc éolien d'une centaine de mâts. Alors des mâts de 110 mètres de haut, avec la hauteur des pales, on est à peu près à 180 mètres de haut. Donc ça a un impact visuel, les gens se sentent encerclés et on n'a pas d'études véritables sur un impact concernant la santé publique. Mais ça, c'est une observation que je vis, mais j'aimerais faire état d'une observation, parce qu'en dépit des multiplications des éoliennes et des panneaux solaires ces 15 dernières années, les énergies renouvelables ne font que s'ajouter au mode de production polluante plutôt que de se substituer. Donc les projets éoliens, à mon sens, portés par la société capitaliste, ne contribuent en rien à une diminution de ce qu'on appelle l'empreinte écologique de l'humanité. Je crois que c'est même le contraire. Et de la part de vos invités, je n'ai pas entendu ceci parler de sobriété, un retour à la sobriété, parce qu'effectivement, pourquoi produire plus de mégawatts à ce qui est déjà produit par les centrales nucléaires pour éclairer des villes ou des centres commerciaux? Là, on peut se poser la question, et effectivement, de l'utilité de produire encore plus de mégawatts. Et la transition écologique devait justement amener à la fermeture de certains réacteurs nucléaires. Et sachant que le projet éolien a démarré à la fin des années 1980, aucun réacteur pour l'instant n'a été fermé.
Merci.
Donc la question de l'utilité de la transition écologique qui finalement m'apparaît plutôt un grand business pour l'intérêt de quelques-uns.
Merci beaucoup, Denis. On a bien compris le sens de votre question. Pierre Canet, là-dessus, notamment sur la fin de la question de Denis, lui, il a le sentiment, au fond, que, alors oui, on voit se multiplier éoliennes, panneaux, etc., mais qu'au fond, en chiffres, ça ne change rien. Et puis surtout, alors pour le coup, là, c'est son argument, on voit bien que le nucléaire n'a pas bougé pour l'instant. Est-ce qu'il a raison, Denis, dans son calcul ou pas? Est-ce que rien n'a bougé depuis qu'on installe beaucoup de panneaux et des éoliennes?
En termes de consommation, on a dans les usages, malheureusement, on ne va pas assez vite. Donc il y a une consommation trop importante. Qu'on parle des habitants, mais on peut parler des industriels, on parle des entreprises. Donc il y a une question de juste niveau de responsabilité.
À l'échelle
aussi
du pays, 16,3% de notre consommation d'énergie, c'est ça le renouvelable?
Oui.
Donc on est...
Pas sur l'électricité, sur l'électricité c'est 22%.
Sur l'énergie, absolument. Oui. Sur l'énergie, sur l'électricité, 22%. Mais ça veut dire qu'on est dans la moyenne basse, autant que je sache, de nos voisins européens, Pierre Canet, ou pas?
On est en retard par rapport au développement des énergies renouvelables. Et ça pose la question, principalement de, effectivement, comment les Français perçoivent, quand ils ont ces éoliennes à côté de chez eux, la contribution qu'ils apportent au paysage énergétique français. Et je parlais tout à l'heure des agriculteurs, mais on peut le voir là dans les choix qui sont pris en termes d'énergie citoyenne, on porte l'objectif d'avoir 15% de l'énergie qui soit citoyenne à l'horizon 2030. Et ça veut dire, par rapport aux appels d'offres ou aux mesures qui sont prises du côté du gouvernement, eh bien de laisser place à cette contribution des citoyens de façon à ce qu'ils puissent s'approprier cette question et se dire que finalement le mât de l'éolienne à côté, c'est un investissement citoyen riverain et ça n'est pas l'objet, comme le disait le monsieur, d'une entreprise qui paraît assez loin et perchée. Et j'irais même aussi sur les emplois. Parce que la question de la décentralisation de l'énergie, c'est redynamiser des territoires, faire en sorte que les campagnes retrouvent aussi des couleurs à travers des emplois et des filières qui bénéficient avec 18 000 emplois, par exemple, dans l'éolien terrestre et qui sont en train de se constituer en France.
J'habite à côté de Montpellier, nous dit Paul, dans un joli village. On voulait poser des panneaux solaires, mais je n'ai pas le droit car ça défigurerait le paysage de ce village. Il y a, nous dit-elle, une incohérence au niveau des collectivités. Comment ça se passe d'une collectivité à l'autre, Alexandre Roche, là-dessus?
Je pense que cet auditeur fait référence aux architectes des bâtiments de France, sans doute. Il doit y avoir dans le périmètre de sa maison, sans doute, une église classée ou un bâtiment classé. Et en effet, il y a des périmètres dans lesquels on ne peut pas installer des panneaux solaires dès lors qu'ils sont visibles depuis ces bâtiments classés.
Donc, je pense qu'elle doit faire référence. Pareil pour les éoliennes, j'imagine. Même peut-être pire encore. J'avais cru comprendre qu'autour des bâtiments classés UNESCO, notamment, alors je ne sais pas quelle est la distance au-delà de laquelle on n'a pas le droit de poser une éolienne. Mais est-ce que c'est très contraignant, Alexandre Roche, ou pas?
Oui, ça peut être une contrainte. On ne peut pas installer une éolienne à moins de 500 mètres d'une habitation. Ça, c'est la réglementation actuelle. Mais en effet, le patrimoine est pris en compte dans le développement des projets. Parfois, on est amené à redimensionner un projet pour ces raisons-là. Et je voulais quand même juste rebondir sur ce qui a été dit par l'auditeur précédent. Dans les Hauts-de-France, Pierre mentionnait que l'éolien, c'est 18 000 emplois. Dans les Hauts-de-France, c'est 2 500 emplois sur cette région. Et je voulais répondre quand même à sa question. On fait du renouvelable dans le secteur de l'électricité, ça fait pas baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2012, il y a 12 gigawatts, donc ça fait l'équivalent de 12 centrales nucléaires qui sont sorties du système électrique, qui étaient des centrales au fioul et des centrales au charbon. Donc on a pu en fait maintenir un bon bilan CO2 grâce aux énergies renouvelables qui sont venues substituer ces énergies fossiles qui sont sorties du système. Et on sait qu'on va devoir encore sortir 4 centrales au charbon du système. Et là aussi, si on veut ensuite fermer des réacteurs nucléaires, si on veut le faire sans augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, il faut accélérer sur le développement des énergies renouvelables électriques. C'est ça la réponse à sa question.
Avec les économies d'énergie, et c'est le point central, de bien combiner et qu'on ait des efforts marqués dans la rénovation des bâtiments. On a accusé pas mal de retard en France avec 300 000 logements sur 500 000 rénovés chaque année. Et donc là, ça passe par des budgets supplémentaires qui soient mis, des investissements supplémentaires dans cet exercice. Et aujourd'hui, il y a eu l'annonce potentiellement d'une plateforme France Transition qui serait mise en place. On ne sait pas encore les montants que le gouvernement souhaite dégager, mais on a besoin d'investissements dans ce champ pour activer ces rénovations. On pense aux économies d'énergie, c'est essentiel en plus du développement des énergies renouvelables.
Ce message de Claudine sur franceinter.fr qui interroge aussi effectivement nos incohérences à tous. Et là, pour le coup, mondialement, on nous recommande d'installer des panneaux solaires, mais on ne nous dit pas qu'ils sont fabriqués en Chine et de manière très polluante. Donc, doit-on les installer? Pierre Canet, elle est pertinente au fond, la question de Claudine.
Ça pose la question que j'évoquais tout à l'heure des emplois, des filières qui doivent se structurer. On voit par exemple sur l'éolien la question d'assemblage en France avec des entreprises qui sont là pour assembler, mais effectivement des parties d'éoliennes qui sont produites à l'extérieur. Et donc pour les panneaux solaires, on a eu dans les années 2010 un affaiblissement des entreprises et de l'industrie solaire par des décisions du gouvernement qui a affaibli les entreprises et l'ensemble des PME qui étaient mobilisées dans ce domaine. Donc il y a vraiment le besoin par ce cap très clair qui doit être marqué vers le développement des énergies renouvelables, de recréer en quelque sorte une industrie de l'énergie en France, de recréer des emplois dans les territoires. Et ça, ça passe pas par des mesurettes. C'est un vrai plan qui doit être trouvé, expliqué, programmé à l'échelle de l'ensemble des régions pour avancer un développement des éoliennes et des panneaux solaires. Mais j'irai plus loin, on pense à la méthanisation, etc., pour rapprocher au plus près des entreprises et des Français ces questions d'énergie.
Pourquoi ne pas construire ces fermes solaires sur les toitures de supermarchés, nous demande Béatrice sur franceinter.fr. Est-ce que ça a du sens? Je vous vois tous faire oui avec la tête. Donc oui, Alexandre Roche, c'est possible de faire ça.
Tout à fait, c'est possible.
Et de le faire beaucoup.
Et ça se développe beaucoup. Et on revient au sujet de l'utilisation des surfaces artificialisées. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est que ça se développe beaucoup parce que le profil de production d'un panneau photovoltaïque, qui va produire beaucoup pendant la journée, notamment pendant le pic de midi, correspond parfaitement aux besoins, par exemple, d'un supermarché qui a souvent besoin de produire du froid, de la réfrigération. Donc c'est en effet un segment qui est en développement assez fort. Il n'y a pas que les toits, il y a aussi les parkings. On voit que les ombrières de parking se développent aussi, et c'est évidemment un secteur sur lequel on souhaite accélérer. Je voulais revenir sur le point quand même de l'importation des panneaux. C'est vrai qu'il n'y a pas de fatalité à notre sens là-dessus. On a tous les atouts en France. On a d'abord des centres de recherche de premier plan au niveau mondial, et on a encore des compétences très fortes sur le territoire français pour industrialiser cette filière.
Il nous manque les métaux rares, en fait, qui de toute façon seront toujours extraits là pour le coup en Chine.
Alors, les métaux rares ne sont quasiment pas utilisés dans les énergies renouvelables. C'est vraiment une idée dont j'aimerais tordre le cou. Il y a une sous-famille de panneaux qui utilise un type de métaux rares, mais la grande majorité des panneaux, c'est produit à partir de ce qu'on appelle du silicium. C'est la deuxième matière la plus présente dans la croûte terrestre. Et donc, sur ce sujet des métaux rares, c'est vraiment un faux débat. Il n'y a pas de métaux rares utilisés dans le photovoltaïque aujourd'hui.
Sandy. À un moment donné, il était question aussi de se tourner vers la défense et d'utiliser les terrains militaires qui ne sont plus utilisés en France pour installer beaucoup de panneaux et d'éoliennes. On en est où dans les négociations? Est-ce que ça avance?
Alors, il y a eu des groupes de travail ministériels, en effet, pour essayer de dégager du foncier de l'armée. Les discussions avancent. On en est à la phase de essayer de bien calibrer le type de contrat qui va devoir être mis en place pour avoir accès, d'une part, à ce foncier qui est public de l'armée, et ensuite pouvoir quand même organiser un processus de mise en concurrence pour organiser les choses sur ce foncier. Donc, les choses sont en discussion et on espère que elles vont aboutir rapidement.
Tiens, Valérie va nous faire une petite incursion ailleurs que dans l'éolien. On y reviendra juste après. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Eh bien, vous parliez d'incohérence. Moi, j'habite une petite ville qui s'appelle Divonne-les-Bains, dans le département de l'Ain. Et on veut nous imposer la création d'une usine d'embouteillage de l'eau, parce que l'eau a été reconnue comme minérale. Et on veut mettre cette eau en plastique et puis envoyer ces bouteilles d'eau en plastique en Asie. Donc on est en 2019, on est en train de voir partout que le plastique pollue. Et nous, on va construire une usine. Je dis on va construire parce que le maire a signé le permis de construire il y a à peu près un mois. Et puis surtout, on manque de transparence, on manque d'informations. Le dernier conseil municipal, le maire a recouru au huis clos pour parler de ce projet. Certes, il y a une réunion demain soir pour la population, mais c'est du grand n'importe quoi. On nous dit que les nappes phréatiques s'assèchent et puis là, un entrepreneur va venir pomper l'eau. Grosse incohérence.
Merci beaucoup Valérie, c'est pour vous plutôt Pierre Canet cette question de Valérie. Effectivement, regardez, nous aussi on est dedans, on a fait une journée sans plastique, on en refera une pour essayer de sensibiliser les gens à sortir du plastique le plus possible. Et paf, voilà que chez Valérie, il y a une usine entière d'embouteillage qui va être mise en place.
Là-dessus, c'est à la fois une mobilisation locale qui doit s'enclencher, mais ça me fait penser au projet Montagne d'Or aujourd'hui.
Exactement.
C'est-à-dire aux incohérences. Donc se dire Montagne d'Or, une mine à ciel ouvert.
En Guyane.
Et de se dire, le gouvernement vient d'acter un signal politique qui mettrait fin à Montagne d'Or. Et la question c'est, comment sur ces projets-là, les populations se mobilisent pour fournir des alternatives. Et nous, en Guyane, c'était pas seulement WLF, on arrête le projet Montagne d'Or. C'est, on trouve en face un développement sur le tourisme durable, sur la question du développement de l'agriculture durable, de la pêche durable. Donc, de bien savoir comment, à Divonne-les-Bains, on a la possibilité, dans cette station balnéaire, en tout cas, de développer sur la base de l'eau, eh bien, potentiellement autre chose, d'autres activités qui feraient contrepoids. Donc, c'est bien la question. Oui, on supprime le plastique, c'est aberrant. Il faut, et c'est vraiment félicitations de vous mobiliser sur place, et en même temps proposer des alternatives. On le fait au quotidien sur plein de projets. Maintenant, il faut que les citoyens s'emparent de ces questions avec des alternatives.
Notre voisin a installé une éolienne sur le toit de sa ville. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, parce que j'imagine qu'elle n'est pas sur le toit. Bref, qui fait un vrombissement très important, nous disent auditeurs sur franceinter.fr. Et si tout le monde faisait pareil, ce serait quand même insupportable. Alexandre Roche, moi, pareil, je suis très. On peut installer une. Alors, pas sur le toit, hein. On peut installer une éolienne comme on installe un panneau solaire. Ça peut marcher comme ça?
Il fait peut-être référence à des éoliennes sur axe vertical. Donc, ce sont des toutes petites.
D'accord.
Ce ne sont pas des éoliennes comme celles qu'on
on
voit dans le paysage.
On est d'accord, ça ne fait pas 180 mètres de hauteur.
Non, c'est quelque chose qui doit faire, je ne sais pas, 2 mètres de haut peut-être.
Comme sur un bateau, non?
On voit un peu des dispositifs similaires parfois, en effet, sur des bateaux. Donc, je pense qu'il fait référence à ça. C'est honnêtement pas quelque chose de très courant aujourd'hui en France.
L'éolien, est-ce que forcément, c'est de toute façon le champ d'éolien? Je repense à notre ami qui nous expliquait tout à l'heure qu'il y en a eu 3, il y en a eu 4, et puis subitement, il se retrouve avec 100. C'est forcément des projets à grande échelle quand on est dans l'éolien ou pas, Alexandre Roche?
Non, pas forcément. D'ailleurs, une majorité des parcs se sont développés parce que le cadre réglementaire était construit ainsi avec des unités de 6 machines. Donc on a maintenant un nouveau système à travers ce qu'on appelle les appels d'offres qui permettent de développer des projets plus gros. Et puis ensuite, ce qu'on souhaite développer également, c'est l'éolien en mer, où là, pour le coup...
Là, 100% des projets, pour l'instant, sont arrêtés, autant que je sache.
Alors pour l'instant, les projets ont tous fait l'objet de recours et on attend justement que les choses puissent être débloquées. Mais sur ces projets-là, ce qu'il faut voir, c'est que là, il faut en effet pouvoir faire le meilleur usage du potentiel qui est très important en mer. Et donc là, faire des grandes machines avec des grands parcs, c'est produire énormément d'électricité. Et c'est vrai que plus la machine est grosse, plus elle produit d'énergie, donc moins on a besoin d'en mettre. Donc l'augmenter la taille des machines, c'est aussi une manière finalement de diminuer leur nombre.
Quelle est la raison, Pierre Canet, de ces projets qui sont tous arrêtés? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce que peuvent provoquer des éoliennes, là pour le coup en mer? Mais j'ai envie d'écarter ou d'élargir aussi la question, qu'est-ce qu'on sait d'une énorme éolienne, d'un champ d'éoliennes pour la biodiversité, pour tout cela autour de nous? Est-ce qu'on a des données précises?
Donc nous, le WWF, ce qu'on appelle, c'est vraiment que ces éoliennes elles soient intégrées. Il y a des endroits où il ne faut pas d'éoliennes, bien entendu, parce qu'il y a des enjeux pour la biodiversité et la protection. Et donc, c'est aussi avoir une cartographie de ces endroits, d'être en mesure de dire, ici, pas d'éoliennes. Lorsqu'il y a possibilité, parce que pour la biodiversité, il y a des mesures compensatoires et un travail qui a été établi, c'est à évaluer si effectivement ce travail a été fait sérieusement. Et donc, le WWF, d'autres organisations, la LPO, etc., sont mobilisées au niveau local pour voir comment faire en sorte que ces projets soient le plus intégrés possible. Et quand je parle d'intégration, c'est pas seulement la biodiversité. On a effectivement, pour les aigles royales, on a vraiment des régions dans lesquelles on ne peut pas implanter d'éoliennes. Lorsque c'est possible, ça ne veut pas dire que ça peut marcher. Il faut une intégration aussi et consulter l'ensemble des citoyens, les intégrer au projet, parce qu'il y a une dimension sociale. On pense aux pêcheurs, par exemple. Il y a besoin d'intégrer et d'avoir un véritable dialogue. On ne veut pas, en quelque sorte, une contestation qui se formerait parce que ce dialogue est rompu. On a vu dans la crise des Gilets jaunes le besoin de rapprocher la transition écologique des gens, de pouvoir dialoguer. Le besoin aussi de mettre en place des solutions avec des bénéfices. Et donc, c'est le besoin, par rapport à ces grands projets d'infrastructure, d'instaurer un dialogue au niveau local.
Pour l'instant, si l'éolien en mer est arrêté, la raison essentielle, c'est quoi? Est-ce que ce sont les pêcheurs? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? La raison essentielle, c'est quoi?
C'est le recours des riverains, des gens qui n'en veulent pas. Il y a des gens, par exemple, de certains riverains.
Donc c'est le paysage, en fait.
Oui, par exemple, sur les plages du débarquement, il y a tout un mouvement d'opposition pour dire on ne veut pas d'éoliennes sur au large de ces plages historiques. Voilà, ça c'est un des arguments, par exemple, qu'on a pu voir.
C'est un argument, Alexandre Roche, qui est contournable, qui se gère comment pour vous au syndicat des énergies renouvelables?
L'argument sur l'impact visuel, encore une fois, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, ça c'est un peu subjectif, hein, mais c'est vrai que ces recours, je le disais tout à l'heure, ils sont assez finalement faciles à mettre en place aujourd'hui dans le système français. Donc on a en effet ces recours qui ont été déposés de manière quasi systématique. Les opposants à l'éolien sont dans une stratégie d'opposition systématique et de recours systématique, donc ça retarde les projets. Maintenant, voilà, on a mis en place des mesures récemment pour finalement accélérer le traitement des recours, et on espère que ça pourra accélérer du coup le développement des projets. Un dernier point quand même sur la biodiversité. Nous, on travaille avec la LPO sur un suivi
Ligue de protection des oiseaux.
La Ligue de protection des oiseaux sur le suivi des collisions, notamment donc des oiseaux avec les éoliennes. Et les études récentes là qui datent de 2017 montrent que des progrès considérables ont été réalisés par la profession, justement parce que sur le retour d'expérience de parcs plus anciens, on a pu se rendre compte que voilà, en déplaçant un peu un mât, parfois on pouvait avoir un impact énorme sur ce facteur-là. Et ce qui est important, c'est que ces projets sont extrêmement suivis d'un point de vue environnemental. Donc on travaille avec la LPO notamment pour alimenter des bases de données, pour augmenter la collecte de données et finalement apprendre davantage sur ces pratiques-là.
Robin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le dernier Robin, allez-y.
Je vous remercie de prendre mon intervention. Donc voilà, j'ai réalisé ma thèse sur le thème des énergies renouvelables, entre autres. Donc j'ai débuté le détour de mon étude sur un point général sur les solutions proposées à ce jour sur le marché. Ce que je peux faire à ce jour, c'est qu'en réalité, les solutions proposées ne sont pas réellement respectueuses de l'environnement, et je vais prendre, pour exemple, très rapidement, le photovoltaïque. Aujourd'hui, on parle donc des panneaux faits à partir de silicium, mais vos intervenants l'ont rappelé, donc à base de silice. Et aujourd'hui, la silice est au cœur d'un certain nombre de problèmes environnementaux. Ils vont en parler encore, d'ailleurs, ce matin sur cette antenne, dans le journal. Ces panneaux ont une fabrication extrêmement énergivore et polluante, dont la Chine, principale fabricant à ce jour, subit pour l'instant l'intégralité des dégâts. Et par ailleurs, ces panneaux sont peu ou pas recyclés, et le recyclage est énergivore et encore mal maîtrisé. Ce qui fait que le bilan énergétique global de ce genre de panneaux est au mieux nul, voire négatif sur une latitude où il ne fait pas toujours très très beau. Il fonctionne parfaitement quand les rayons solaires le frappent à 90 degrés et sans nuages, donc encore une fois, ce n'est pas toujours le cas chez nous. Leur rendement chute relativement rapidement quand la luminosité décroît. Donc en gros, ils ne sont pas efficaces toute la journée et voilà.
Merci Robin, pardon de vous interrompre d'abord parce que le temps nous est précieux et puis surtout parce qu'on vous entend pas très bien en fait, mais Alexandre Roche, ce que nous dit notre ami Robin, c'est que donc un, le silice, deux, effectivement, fabrication chinoise, trois, mauvais recyclage.
Ouais, alors un sur la silice, le silicium, il faut le purifier. Donc ouais, c'est cette partie-là qui est énergivore. C'est justement, et ça fait lien tout de suite avec cette deuxième question, la raison pour laquelle la France a une chance dans ce domaine-là, puisque dans les appels d'offres, celles qui sont construits en France aujourd'hui, on tient compte du bilan carbone, la production des panneaux. Donc si on produit des panneaux avec une électricité fortement peu carbonée, comme c'est le cas en France, on aura finalement une note supérieure. Donc c'est précisément à travers ce type de facteurs qu'on peut prendre en compte qu'on pourra faciliter le développement de projets en France. Et un dernier point sur le recyclage,
ouais,
parce que là vraiment,
est-ce que ça se recycle,
il y a une il y a une filière qui s'appelle PV Cycle, qui est basée à Rousset à côté d'Aix-en-Provence. C'est une technologie qui a été mise en place très récemment, et l'intégralité des panneaux sont recyclables et vont être recyclés. C'est une obligation lorsqu'on met le produit sur le marché de préfinancer ces opérations-là.
Pierre Canet, 10 secondes.
On a beaucoup parlé de production. Maintenant, j'invite tous les auditeurs à réduire leur consommation, et ça passe aussi par We Act for Good, qui est une application du VVF qui vous permettra très concrètement au quotidien de réduire votre consommation. Et ça, c'est un objectif à tenir au-delà des éoliennes et des panneaux solaires.
Allez, réduisons notre consommation. Là, pour le coup, c'est un message pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci de votre participation et portez-vous bien.